VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 10h en temps universel. À Djibouti, le premier tour de l'élection présidentielle est prévu demain vendredi 8 avril. Le président Ismaël Omar Guelleh est donné largement favori. L'opposant Daher Ahmed Farah, président du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, ne se fait aucune illusion sur l'issue du scrutin. On l'écoute.
La commission électorale nationale indépendante, prévue par l'accord cadre signé entre l'opposition et les régimes le 30 décembre 2014, n'a pas été mise en place. Elle a été totalement rejetée par le régime qui a réactivé sa CENI à lui. De sorte que le résultat de ce pseudo-scrutin sont connus d'avance. Le vainqueur est connu d'avance, c'est M. Ismaël Omar Guelleh. Deux candidats se réclament de l'opposition, trois se disent indépendants. Ces gens-là se plaignent tous des conditions dans lesquelles cette pseudo-élection se déroulera, comme si c'était une découverte, alors que c'était connu, ça a toujours été de notoriété publique. Il y a en effet plusieurs candidats, mais cela ne fait pas pour autant de l'élection une élection libre et démocratique. Ce n'est pas parce que tel ou tel participe que cela change quelque chose au fond du problème.
L'opposant djiboutien Daher Ahmed Farah. L'ONG Médecins Sans Frontières a dénoncé mercredi des pénuries de médicaments essentiels au Soudan du Sud en guerre et a appelé les autorités et la communauté internationale à agir pour éviter une crise médicale totale. En plus d'une situation humanitaire sinistre, une urgence médicale supplémentaire est évitable et en train de se dérouler, a regretté dans une lettre ouverte la présidente internationale de Médecins Sans Frontières, Joanne Liu.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, les forces nouvelles ex-rébellion ont acheté près de 300 tonnes d'armes et de munitions au lendemain de la crise post-électorale en 2011. Accusation formulée par un groupe d'experts de l'ONU dans un rapport confidentiel adressé au Conseil de sécurité de l'ONU. Guillaume Soro, le leader des forces nouvelles d'alors et actuel président de l'Assemblée nationale, se serait lui-même chargé de l'acquisition du matériel. D'après la presse ivoirienne, Guillaume Soro a rejeté ces accusations. Pour Paul Léonard Ngoué, expert en relations franco-africaines, l'ONU ne joue pas franc jeu.
C'est de l'humour, je crois, de l'humour noir auquel s'exerce le secrétaire général de l'ONU, parce qu'on peut parler de stabilité. Mais comment peut-on parler de stabilité en Côte d'Ivoire lorsque tous les acteurs, les belligérants de la Côte d'Ivoire, hormis celui qui a été agressé, sont aujourd'hui en liberté et se meuvent librement en Côte d'Ivoire. Nous avons encore appris récemment le séjour de l'ancien président français Sarkozy en Côte d'Ivoire. Nous savons que l'ancien président du Burkina Faso se trouve en Côte d'Ivoire et d'ailleurs il a acquis la nationalité ivoirienne. Nous savons que les anciennes forces rebelles, les responsables de ces forces rebelles sont aujourd'hui au pouvoir en Côte d'Ivoire et nous savons que déjà des tiraillements se font entrevoir entre ces différents protagonistes dans la perspective des élections 2020.
La procureure de la Cour pénale internationale CPI a dénoncé hier une campagne acharnée d'intimidation de témoins pour expliquer l'abandon des poursuites contre le vice-président kényan William Ruto dans les graves violences après la présidentielle de 2007. Nanine Talani.
Les juges de la CPI ont décidé de prononcer un non-lieu en faveur de M. Ruto et de son co-accusé, le journaliste Joshua Arap-Sang, estimant insuffisants les éléments présentés par la procureure Fatou Bensouda depuis le début du procès en septembre 2013. La procureure a regretté que des obstacles au cours des enquêtes et poursuites aient contrecarré le cours de la justice pour les victimes. D'après Fatou Bensouda, avant même que la CPI n'autorise le lancement d'une enquête en 2010, une campagne avait démarré pour intimider les témoins et elle s'est intensifiée dans les semaines menant au procès et a continué pendant toute la durée du dossier. La procureure a aussi accusé Nairobi de ne pas avoir pleinement coopéré à l'enquête, une mise en cause rejetée par le Kenya.
En Syrie, environ 250 employés d'une cimenterie sont portés disparus depuis lundi après une attaque du groupe ultra-radical État islamique dans la ville de Demeya, une localité à 40 km au nord-est de Damas, ont affirmé des habitants. Selon l'Observatoire syrien des droits humains, il n'y a plus de contact avec des dizaines d'employés. Merci de nous avoir suivis. À plus tard dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.